Bonsoir à tous, merci d'être venus nous voir et pour la présentation de ce très beau livre qu'est Dans l'ombre de la lumière, de Madame Claude Bureau-Renaud. Bonsoir. Merci. Un livre magnifique, plein d'amour, plein de poésie, plein de confessions aussi, puisque nous parlons de Saint Augustin. Mais peut-être pourriez-vous, pour les gens qui ne l'auraient pas lu, nous en dire quelques mots.
Voilà, ça m'arrive de temps en temps de rejeter un coup d'œil aux Confessions de Saint Augustin, qui sont quand même un des livres fondamentaux de notre histoire occidentale. Et puis, je crois que c'était en 2007, il y a eu une nouvelle traduction des Confessions par quelqu'un qui s'appelle Frédéric Boyer, qui est aussi celui qui s'occupe de la traduction de la Bible. Et il a fait paraître une nouvelle traduction des Confessions qu'il a intitulée non pas les Confessions, mais les aveux. Parce qu'il estimait que ça correspondait plus au parti pris d'origine de Saint-Augustin. Et il a fait à Paris une lecture publique au Théâtre de la Colline. Je suis allée comme ça, en me disant « Tiens, pourquoi pas ?» c'était un décor très simple, très nu, enfin il n'y avait même pas de décor, et il avait le livre en main, et il s'est mis à lire des passages avec, je ne sais pas comment vous dire, une intensité, je dirais même plutôt une violence, et ce qui fait que j'ai eu envie une nouvelle fois de remettre mon nez dans Saint-Augustin, et je me suis dit effectivement ce texte, c'est un texte brûlant, c'est un texte de passion. En même temps, c'est un texte de réflexion. Il y a des passages difficiles auxquels, j'avoue, je ne comprends pas toujours, mais peu importe. Bon, et donc, relisant une fois de plus ce texte, je suis retombée sur cet épisode qui m'a particulièrement frappée. Saint-Augustin, après il fait carrière et puis il arrive à Milan. Et là, sa très chère mère, on peut dire, lui, probablement s'entremet pour qu'il fasse un riche mariage. Puisque pour faire carrière, comme on sait, il faut faire un riche mariage. Après tout, Stendhal, Balzac et quantité de romans du 19e siècle sont pleins de ce genre d'histoire. Le jeune homme pauvre qui fait des études, qui est brillant, qui réussit, mais s'il veut entrer dans la société, il faut qu'il épouse une jeune fille de bonne famille et qui ait de l'argent. Histoire on ne peut plus banale. Et on voit que cet itinéraire-là, il a existé au 4e siècle après Jésus-Christ. Donc. Et comme il vit depuis 15 ans environ avec une femme qui est sa concubine, enfin nous on dirait sa compagne, le terme romain c'est concubine, et ce qui n'est pas un statut méprisé dans l'Empire romain, mais c'est un statut qui ne donne aucun droit juridique ni économique, bien évidemment. Et donc, puisqu'il va se marier, très brutalement, il renvoie la femme en question. Et donc, relisant ce passage, j'étais quand même sidérée par la violence de l'affaire. Et bon, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis moi-même femme, mais je me suis quand même, dans une certaine mesure, je pense, identifiée à cette femme qui aime cet homme, qui vient de vivre 15 ans avec lui, un peu plus de 15 ans puisqu'ils ont un fils de 15 ans, et qui très brutalement le quitte et quitte son fils, puisqu'elle n'a aucun droit juridique sur le fils en question. Et puis, c'est terminé. Dans les confessions, il n'est plus jamais question de la femme en question, puisque Saint Augustin, comme vous savez sans doute, fait une belle carrière d'évêque et de théologien. Et donc, voilà, c'est parti de cette question qu'est devenue cette femme. Et qu'est-ce que cette femme pourrait nous raconter, cette femme évidemment imaginaire, de mon point de vue, pourrait nous raconter sur Saint-Augustin, dont elle a quand même partagé la vie pendant de longues années. Alors, il y a tout de même une petite phrase émouvante à ce sujet dans les Confessions, au moment de cette séparation, où il dit « Mon cœur en fut déchiré ». Donc, il fait allusion à sa propre souffrance. Donc, ce qui m'a, si vous voulez, ça, pour moi, ça étayait l'hypothèse qu'il aimait cette femme, c'est, véritablement, que c'était un lien, que ce fut un lien important. Bon, voilà, c'est ça le point de départ.
Le point de départ du livre, effectivement. Donc, en fait, c'est cette femme qui, dans un va-et-vient narratif, passe, nous raconte en fait l'histoire qu'elle a vécue avec Augustinus, comme vous l'appelez dans le livre, et comment elle le revoit après des années après avoir été répudiée. Je me trompe peut-être, mais dans les confessions de saint Augustin, on désigne cette femme comme la femme sans nom des confessions. Je ne sais pas si je me trompe, je crois que c'est comme ça qu'on la désigne.
Les biographes disent, voilà, là, oui, la femme sans nom des confessions, puisque saint Augustin, dans les confessions, ne la nomme jamais. Il donne le nom de leur fils, qui était Adeodatus, qui veut dire voué à Dieu, enfin, ce qui a donné en français Déoda ou Adeoda, celui qui est consacré à Dieu. Mais on peut se poser la question, quel Dieu ? Parce qu'à l'époque où cet enfant est né, saint Augustin n'était pas un chrétien, il était manichéen.
Mais or, à cette femme, vous lui donnez, enfin, bien entendu, je pense que ça aurait été difficile de faire sans, mais vous lui donnez un prénom, vous lui donnez le nom d'Elissa. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous est venu ce prénom ?
Oui, j'ai pris Elissa parce que c'est la forme grecque du nom phénicien de Didon. Vous allez me dire, c'est bien compliqué cette affaire. Bon, si vous voulez, puisque c'était une histoire de femme abandonnée que j'allais raconter, et que Carthage, la ville de Carthage, a été fondée. Enfin, bien sûr, c'est la légende, mais on sait que les légendes ont plus de poids parfois que le réel. La Carthage a été fondée par une femme venue de Phénicie, c'est-à-dire de l'est de la Méditerranée, et dont le nom phénicien, en fait, était Elishat. Alors, je ne vous garantis pas que je sais prononcer le phénicien antique. Elishat, ça s'écrit S-H-A-T à la fin. Et en fait, ça a été transformé assez vite sous la forme grecque qui est Elissa. Bon, j'ai choisi Elissa parce que, bon, à nos oreilles, ça résonne un peu comme Élise. C'est probablement l'origine, d'ailleurs, du prénom Élise. Et donc, puisque Carthage a été fondée par cette Didon Elissa, et que, comme on sait, dans la légende inventée par Virgile, Didon, c'est le prototype de la femme plaquée, encore une, puisque Énée passe à Carthage. Didon et Énée sont follement amoureux l'un de l'autre, c'est ce que nous raconte Virgile, la pure invention bien sûr. Et puis Énée est appelé à un autre destin, à savoir prendre femme en Italie et fonder Rome, comme on sait. Et donc brutalement, il quitte Didon qui, au rage, au désespoir, se jette dans un bûcher en flammes. Donc, puisque l'essentiel de mon roman se passe à Carthage, j'ai donc donné à mon héroïne, la répudiée d'Augustin, ce prénom symbolique d'Elissa.
Et comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est donc on sait très très peu de choses sur cette femme. Donc, comment vous avez construit son personnage ? Comment est-ce que vous lui avez inventé cette vie, enfin cette vie après saint Augustin ?
Ben, peu à peu, par petites touches. Je me suis dit, voilà, une femme seule, c'est pas si évident dans l'Empire romain de l'époque, enfin, au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc, j'ai imaginé qu'elle était hébergée par sa sœur et son beau-frère. Et j'ai fait du beau-frère en question un potier. Bon, les potiers à Carthage, enfin, les artisans potiers de Carthage étaient célèbres. Enfin, on exportait les poteries surtout de Carthage, surtout le pourtour du bassin méditerranéen. Donc voilà, je lui ai donné une sorte d'ancrage dans une famille de fortune Et puis aussi, peu à peu, un ancrage dans la terre, parce que j'ai essayé d'imaginer qu'elle apprenait peu à peu ce travail de poterie, qu'elle pétrissait l'argile, elle prépare la terre pour son beau-frère, et puis peu à peu, le beau-frère l'initie, et elle, dans un registre très modeste, très humble, je dirais, elle, d'une certaine façon, elle crée, enfin, et elle... Dans son effroyable douleur, j'essayais d'imaginer qu'elle trouvait une certaine réparation, un certain adoucissement dans ce contact avec la terre et avec cette amorce de création, si humble soit-elle.
Ouais, bon, je me permets, j'ai lu ça sur le site... sur le site d'Actes Sud, où il était noté que en fait, vous lui aviez donné beaucoup de traits de caractère de votre mère.
En fait, ça s'est fait à mon insu, comme souvent quand on écrit avec une tâche aveugle, c'est-à-dire on ne sait pas toujours ce qu'il cherche à se dire. Et c'est seulement quand j'ai eu terminé le roman que je me suis dit, mais oui, cette femme, elle a, c'est pas le portrait de ma mère, non pas du tout, mais elle en a certains traits. Et en fait, ce qui m'a aidée à étayer cela, c'est que pendant les 15 années où elle a vécu avec saint Augustin, enfin qui dans le roman s'appelle Augustinus, parce que je trouve que le nom latin est plus joli, plus chantant. Bon, et ça, Augustin le raconte dans les Confessions, que pendant ces 15 années-là, il n'était pas du tout catholique, il était manichéen, qui était une forme, on peut dire, un peu dérivée du christianisme, avec cette thématique qui est restée dans notre langage courant, qu'il y aurait un principe du bien, de la lumière, et un principe du mal qui est du côté de l'obscur, qui avait une sorte de substance obscure, épaisse, noirâtre, à laquelle il fallait tenter d'échapper pour accéder à la lumière, une lumière à la fois charnelle et spirituelle. Bon, en gros, c'était ça la conception manichéenne du monde. C'est quand même pas rien. Pendant 15 ans, Augustin adhère à cette croyance. Et d'ailleurs, s'il fait une brillante carrière de Carthage à Rome, puis de Rome à Milan, c'est grâce à l'appui de manichéens importants. Donc, il s'est servi du manichéisme, comme ascenseur social, on dirait maintenant. Et bon, puis il y a eu l'illumination, la révélation, et il a rejeté farouchement le manichéisme, et bien entendu, il a brûlé ce qu'il avait adoré, et il a combattu avec férocité toutes les tendances manichéennes. Et bon, j'en profite pour glisser que, bon, vous savez peut-être qu'en France, au XIIe siècle, XIIIe siècle, existait ce qu'on a appelé l'hérésie cathare. Alors, c'est toujours la question, où sont les hérétiques, où sont les bien-pensants? En tout cas, l'Église catholique a combattu férocement les cathares. Les cathares étaient dans la filiation des manichéens. Bon, la conception s'était un peu modifiée, mais les cathares sont issus du manichéisme qui avait donc traversé la Méditerranée et qui était venu en France. Et la première inquisition a été créée pour combattre les cathares, non pas les juifs, mais les cathares. Saint-Augustin avait déjà mené une lutte féroce contre les manichéens et il a fallu la reprendre 7 ou 8 siècles plus tard avec les cathares. Bon, j'ai un peu dérivé, je crois.
C'est pas grave, enfin,
c'est
on est là pour ça.
Vous me relier avec notre histoire, enfin l'histoire du christianisme et tout ce débat évidemment autour de la grâce qu'on retrouve dans les tendances catholicisme, protestantisme, et qu'en fait j'avais déjà abordé dans un précédent roman. D'ailleurs, je crois que j'étais venue ici pour ce roman, je crois bien. C'était il y a plus de 6 ans, oui, c'était un roman qui s'appelle « Le désert de la grâce », donc le thème de la grâce devait déjà me titiller, et « Le désert de la grâce » se passant essentiellement autour de l'abbaye de Port-Royal au XVIIe et au début du XVIIIe en France, puisque bon, vous savez peut-être que le débat autour de Port-Royal et des jansénistes était en fait une résurgence de ce vieux débat autour de la grâce et du libre arbitre. Bon, est-ce que l'homme possède un libre arbitre qui lui permet d'accéder au bien, ou est-ce que, ça c'est la position de saint Augustin, l'homme est déchu, l'homme n'est que pourriture et mal, et s'il n'a pas l'illumination de la grâce, il ne peut pas accomplir le bien. Ça, c'est la position radicale de saint Augustin, qui a fait débat dans l'Église catholique, qui a donc été reprise au moment de Port-Royal et du jansénisme, et qui, bien sûr, antérieurement, a amené dans une certaine mesure la scission entre catholiques et protestants. Les protestants ayant une position, je dirais, de pureté radicale augustinienne sur cette question de la grâce. Donc je veux dire que tout ça, ça peut paraître des vieilles histoires, mais je crois que ça nourrit en même temps toute notre histoire occidentale. Mais enfin, mon histoire, le roman n'est jamais qu'une histoire de femme plaquée, comme je disais, et qui se souvient de ses amours antérieurs.
Benoît, dans un contexte quand même fort, puisque c'est bientôt la chute de Rome, et avec effectivement un combat religieux assez fort également. Vous avez dû, j'imagine, comment vous avez mené vos recherches sur cette...
Sur saint Augustin, il y a une littérature démentielle. Il faudrait une vie entière pour lire saint Augustin et ce qui a été écrit sur lui. J'en suis loin. Mais bon, il y a des biographies, évidemment très bien faites, et qui d'ailleurs, les opinions changent, il peut y avoir nouveaux éléments qui apparaissent. Donc je me suis surtout étayée sur des biographies de saint Augustin. Il y en a de très bonnes en français, il y en a traduites de l'anglais également. Et puis, j'ai lu et relu les Confessions, qui sont quand même un texte très fascinant, où un homme, on voit un homme... Il écrit, saint Augustin a écrit les Confessions à peu près à la quarantaine, c'est-à-dire vers les années 400, à l'approche des années 400, pense-t-on. Et c'est d'une modernité incroyable. Il a une façon de parler de l'enfance, mais de la toute petite enfance, de la... des bébés, on a l'impression qu'il a une mémoire d'une fraîcheur extraordinaire, une attention à l'enfance, et à la mémoire qui sont très très intéressantes. Et je dirais presque même, il approche de la notion d'inconscient d'une certaine façon, puisqu'il aborde un peu la question d'une mémoire dont on ne se souvient, enfin de souvenirs dont... qui sont là, mais ils sont là en réserve et ils vont peut-être surgir à une occasion ou une autre, mais on ne sait pas qu'ils sont là. C'est-à-dire que c'est presque, oui, la notion de l'inconscient.
Et est-ce que vous n'avez pas été surprise donc, par ce personnage de saint Augustin qui, dans sa jeunesse, est une sorte de fou, amoureux, insouciant, presque, et qu'on revoit des années plus tard et qui est devenu un personnage complètement inverse, en fait. Vous êtes parvenu, vous, à imaginer ce qui s'était passé ou est-ce que ça vous a simplement surpris
C'est le grand mystère qu'on évoquait juste avant, de la grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce qui vous transforme un homme Je ne sais pas, mais lui le raconte. Bon, ceci dit, sur l'image qu'on a d'Augustin jeune, jusqu'à la révélation, l'illumination qui a mille ans fait que, alors que la rupture avec sa concubine est déjà consommée. Et après, il y a une scène d'illumination par la grâce qui fait qu'il va se tourner uniquement vers Dieu. Mais auparavant, je dirais dans l'imagerie catholique classique, courante, Je crois qu'on a un peu trop tendance à raconter que saint Augustin aurait vécu une vie de débauche épouvantable, courant de femme en femme, se saoulant éperdument, courant les prostituées dans le port de Carthage, etc. Et après, ben voilà un homme qui a 17-18 ans et père. Il rencontre cette femme très tôt. Et ils ont un enfant tout de suite. Il faut qu'il gagne sa vie. Il gagne sa vie comme instituteur à la campagne. Hein. Je vous demande votre avis ou relisez les confessions. Regardez bien. Moi, je vois absolument pas une vie de débauche. Bon, on peut imaginer quand il a débarqué à Carthage, venant de son trou de province. La première année, étudiant, il est un peu cavalé à gauche à droite, oui, mais les débauches monstrueuses et les souleries, vraiment, je pense, dans les confessions, il dit, il ne dissimule pas. C'est vraiment pas un homme qui dissimule, on le sent à la lecture des confessions. Donc, je crois qu'il y a eu une sorte de fabrication artificielle typiquement hagiographique. C'est-à-dire que pour souligner à quel point l'irruption de la grâce, l'illumination divine est extraordinaire, on noircit le tableau antérieur. Bon, ça, c'est un procédé classique dans la vie des saints. Mais moi, je ne vois pas ça du tout dans les confessions. Enfin, si bon. Donc, je crois qu'on a beaucoup exagéré la vie de débauche de ce malheureux Augustin.
En tout cas, il dit quand même quelque chose, c'est que cette rupture avec cette femme qu'il a tant aimée l'a quand même fait souffrir.
Oui.
Est-ce que c'est pas une forme de regret de ne pas avoir pu joindre les deux paramètres entre son amour et son illumination ?
Mais il n'a pas. Je reprécise bien ça, je vous assure, si on relit les confessions. Il ne renvoie pas la femme parce qu'il a eu une illumination par la grâce. Il renvoie la concubine parce qu'il va, faire un mariage avantageux. Mmh. Et ce pourquoi il se fustige, et à mon avis à juste titre, c'est sur son ambition effrénée. Et c'est ça qu'il reprend très souvent dans les confessions. Oui, j'étais dévorée d'ambition, oui, je voulais arriver... Et je n'étais menée que par ce désir-là, tout en sentant qu'il y avait autre chose, etc. Mais non, il ne renvoie pas la concubine, la malheureuse Elissa, parce que la grâce l'aurait touchée. Il n'en est pas encore là, ça ne viendra que 6 ou 8 mois après.
Oui. Peut-être pourriez-nous vous lire un... Pourriez-vous nous lire un petit passage de votre roman, qu'on goûte un petit peu?
Alors là, c'est un passage qui est au début du roman, et où j'imagine donc qu'Elissa, qui est revenue à Carthage depuis une dizaine d'années à peu près, qui a la quarantaine, comme Augustin, elle apprend par une amie qui s'appelle Victoria, que l'évêque d'Hipporegius, c'est-à-dire là où Augustinus est maintenant évêque, Hipporegius est en fait maintenant en Algérie, c'est à Naba. Donc c'est quand même à une certaine distance de Carthage. À l'époque, il fallait 3-4 jours pour venir d'Hipporegius jusqu'à Carthage. Donc elle apprend que Augustinus, l'évêque d'Hipporegius, va venir à Carthage pour prêcher dans une des églises de la ville. Et l'amie en question, qui est chrétienne, lui dit « Ben viens, tu sais, c'est intéressant, il paraît qu'il prêche très bien, cet Augustinus. D'ailleurs, même beaucoup de païens viennent comme ça pour le plaisir d'entendre des beaux discours. Enfin, les Romains aimaient beaucoup la rhétorique. Et d'ailleurs, Augustinus était professeur de rhétorique avant de devenir évêque. Et donc, voilà, c'est un passage où Elissa se retrouve avec Victoria, son amie, dans l'église où Augustinus va venir prêcher. À peine une vingtaine de rangs entre lui et moi. La foule s'agitait, s'ébrouait, commentait. « Il se croit au théâtre », m'a glissé Victoria. « Beaucoup de païens sont venus par curiosité ou peut-être pour perturber ». je faisais attention à me dissimuler derrière une femme de haute taille. Hommes et femmes étaient séparés par l'allée centrale. Au moins, nous autres manichéens étions-nous mêlés tous ensemble lorsque nous chantions nos hymnes. Les yeux d'Augustinus scrutaient l'assemblée. Je me suis dit qu'il s'efforçait de les capter, comme s'il voulait rassembler dans une vaste nasse ses regards mouvants. Les haler jusqu'à lui, et je tremblais. Il a toujours aimé capter. Je l'avais senti dès notre première rencontre. L'évêque Aurelius a prononcé quelques phrases de bienvenue. Augustinus s'est levé, s'est avancé vers nous. Bouleversé, je retrouvais ce visage bien dessiné, marqué à présent par quelques rides, comme le mien. Je ne parvenais pas à raccorder les deux visages. Celui d'autrefois, avant la séparation de 1000 ans, celui de maintenant. J'oscillais et j'errais entre les deux, perdu. Et sa voix, soudain, ce timbre, grave et suave. Je ne comprenais aucun des mots prononcés. Il n'y aurait pas pour moi de paroles divines transmises par un évêque. Je ne voulais entendre que cette voix, de plus en plus profonde, moelleuse par moments, celle de l'amour autrefois, lorsque nos corps se cherchaient en quête du plaisir, quasiment les mêmes intonations, douces et rauques en même temps. Ce timbre réveillait en moi les voix d'il y a 20 ans et plus, la sienne, la mienne, entrelacées, peut-être ai-je déliré, c'était à la fois merveilleux et intolérable. La voix labourait et caressait à l'intérieur de mon ventre. Je n'ai plus pu supporter, j'ai murmuré à Victoria. Un malaise, la chaleur, il faut que je sorte au plus vite. La sueur coulait entre mes seins, je me suis glissée discrètement à travers la foule, pourvu qu'il ne m'ait pas remarqué. Et j'ai fui par une petite porte latérale. J'avais envie de crier à tous ces fidèles. Si vous saviez combien l'évêque d'Hipporegius fut un merveilleux, infatigable amant. Oui, leur crier cette vérité à ces bons catholiques en quête d'une divine vérité qui allait ensuite déambuler dans l'humidité sensuelle de l'été, chanter, danser, se saouler, puis baiser dans le lit conjugal ou dans quelques couches clandestines. Un merveilleux amant durant près de 15 ans et dans la fidélité l'un à l'autre.
Je vais me permettre de vous poser une petite question piège. C'est pourquoi avoir choisi ce passage-là précisément ? Est-ce qu'il a...
Parce que c'est une façon d'évoquer ce dont Augustinus, enfin Augustin ne s'engage pas dans ses confessions, la sensualité, ce rapport très fort à la sexualité, à la sensualité qu'il a eue et dont il parle avec une franchise étonnante. Je veux dire que pour un texte écrit en gros, disons, en 400 après Jésus-Christ, certains passages des confessions sont d'une force et d'une sensualité extraordinaire. Et il parle de sa sensualité qui n'est pas seulement érotique, il évoque son plaisir des odeurs, des couleurs, de contempler la lumière. Bon, peut-être un Roland manichéen, mais je pense que c'est un homme qui avait une sensibilité au sens épidermique, enfin une sensualité tout à fait extraordinaire. Et ça affleure dans son écriture.
Est-ce que ce n'était pas risqué de faire ce mélange entre la sexualité et la religion ?
Vous voulez dire dans ce passage ?
Dans ce passage, oui, par exemple.
Bon, celle qui va, la femme en question, celle qui parle, enfin la narratrice, là, elle n'appartient pas du tout à l'Église. Elle est restée fidèle à la conception manichéenne du monde, qui est peut-être sa façon de rester fidèle à Augustin. De toute façon, parce que ce qu'on nous raconte, ce que les historiens racontent sur le public des églises à l'époque, ça n'a rien à voir avec notre Sainte Messe à nous. C'est, les païens venaient, les juifs, les manichéens, ça discutait, ça contestait. C'est une église qui est encore, une église catholique qui est encore en train de s'édifier, de travailler à, comment dire, à élaborer, alors ce qu'il faut dire le dogme, ce qu'il faut dire les vérités révélées, c'est compliqué, ça nous embarquerait dans des questions de théologie, mais toute la carrière d'Augustin en tant qu'évêque, on voit qu'il consacre une énergie mais considérable à lutter contre ce qu'il considère comme des hérésies. Il y a le manichéisme, bon, bien sûr, mais il y a aussi ce qu'on appelait à l'époque les donatistes, c'est-à-dire qui étaient également des chrétiens qui avaient leurs propres églises, leurs propres évêques, et qui contestaient la nouvelle église défendue par Augustinus et par d'autres, qui, elle, s'appuyait beaucoup plus sur le pouvoir de l'Empire romain, puisqu'on est encore dans l'Empire romain qui va peu à peu s'effondrer, mais dont les structures administratives tiennent encore. Donc c'est une église qui est en perpétuelle lutte, en perpétuelle élaboration.
Perpétuelle évolution, j'imagine, aussi.
Oui.
C'est un passage aussi très intéressant, puisqu'elle ne le reconnaît pas, en fait. Si ce n'est par sa voix,
oui,
si ce n'est par son attitude.
Oui, d'une certaine façon, elle ne veut pas le voir, si on peut dire, mais... Et dans la voix lui évoque, bien sûr, un tout autre registre.
Alors, je me suis permis de relever une phrase que j'ai beaucoup aimée, parce que c'est deux phrases qui sont sur une seule page, et on dirait que c'est un petit peu une goutte d'eau dans tout cet océan qu'est votre roman, que je trouve vraiment très forte, en tout cas sur le caractère de cette Elissa, qui dit... Parfois, je ne sais plus si je t'aime ou si je m'aime moi t'aimant. Et je trouve ça, c'est peut-être très fort de dire ça, parce que c'est bien plus loin dans le roman, alors qu'elle ne le reconnaît pas, en fait. Est-ce qu'elle aurait envie de continuer à aimer quelqu'un qui a trop changé, qu'elle n'aimerait certainement plus?
Je crois que là, j'ai laissé la question ouverte. Bon, je suis bien, en un sens, je suis bien contente que ça vous ait fait question. Oui, c'est peut-être un peu la question du deuil. Finalement, j'ai fait le portrait d'une femme qui ne parvient pas à faire le deuil de l'homme aimé. Bon, on imagine qu'avoir vécu 15 ans avec un homme aussi brillant, intelligent, sensuel, brûlant, passionné, ça vous marque à vie. Bon, alors effectivement, elle aurait pu... Moi, je trouve qu'on pourrait très légitimement, qu'on peut très légitimement dire de cette femme « Oh, mais finalement, elle s'enferme dans son deuil, elle ressasse, elle se bloque là-dedans, elle nous casse les pieds, elle aurait très bien pu passer à autre chose, chercher un autre homme. » D'ailleurs, sa sœur, à un moment donné, lui propose un compagnon comme pour un concubinage, quoi. Elle dit « Non, non, pas question. » Bon, et effectivement, j'ai mis cette phrase dans sa bouche à ce moment-là. Elle doit avoir plus de 50 ans. Comme si, tout d'un coup, elle se disait « Mais peut-être je m'accroche à une image de moi-même, une image de femme amoureuse qui refuse de faire le deuil. » Et bon, je comprends qu'on peut dire légitimement, elle se bloque complètement. Voilà. Donc, je laisse un doute, là. Mais le lecteur est libre d'interpréter, de prendre parti.
Et justement, cette femme, je pense particulièrement au titre « Dans l'ombre de la lumière », où on se dit qu'elle est certainement l'ombre, bien évidemment. Mais pourtant, c'est une femme rayonnante.
Oui, j'espère que c'est une femme lumineuse, cependant. Oui, bon, le titre, bien sûr, renvoie à la conception manichéenne dont on parlait tout à l'heure. Et en même temps, ça m'ennuierait qu'on la pense totalement du côté de l'ombre, parce que pour moi, elle est une femme lumineuse. Et je pense qu'il y a, et qu'en même temps, il y a chez Augustin, chez Augustinus, dans le roman en tout cas, des zones d'ombre. D'ailleurs, si vous lisez les Confessions, il a au moins cet extrême mérite de s'interroger sur ses propres zones d'ombre, saint Augustin. Ça, c'est quand même admirable dans les Confessions. Donc, c'est vrai que ça m'ennuierait que le titre soit interprété de façon manichéenne, oui. entre guillemets, c'est-à-dire elle est la femme de l'ombre. Oui, socialement parlant, c'est vrai. Mais j'espère qu'elle est porteuse quand même d'une petite lumière à elle, qui est une petite lumière toute humaine, effectivement, qui n'a rien à voir avec la grâce ou la lumière divine, mais qui est sa façon de survivre.
Et c'est une femme aussi très, très combative, en fait, puisque même des années... Enfin, elle n'est plus toute jeune quand elle recueille chez elle de jeunes femmes qui se sont enfuies parce qu'elles avaient peur pour leur vie, et qui... Et oui, elle prend soin d'eux, elle ne se laisse pas aller, comme elle ne s'est pas laissée aller... à son amour perdu. Donc, est-ce que vous avez voulu, faire le portrait de cette femme forte malgré tout, mais désespérément amoureuse et qui serait en fait sa part d'ombre, sa part d'ombre ce serait son amour.
Oui, puisqu'elle elle n'en parle jamais à personne.
Oui.
Elle garde constamment, enfin dans le roman, c'est comme ça que je l'ai voulu, gardant constamment le secret sur ce qu'a été sa vie antérieure. Donc elle raconte une vague histoire, qu'elle a eu un fils autrefois avec quelqu'un, mais qu'il est mort, etc. Donc elle ne veut rien livrer de sa vérité profonde. Mais par ailleurs, au moment où il y a des circonstances tragiques, à savoir que débarquent à Carthage des réfugiés suite à la chute de Rome, puisque Rome a été saccagée par les Visigoths et que beaucoup de Romains se sont enfuis, ont traversé la Méditerranée et ont tenté de trouver refuge donc dans cette province romaine d'Afrique du Nord. À ce moment-là, elle recueille deux femmes réfugiées débarquent chez elle et elle les recueille et elle s'en occupe, elle les aide. Donc c'est pas une femme qui se coupe de la réalité, du monde. Elle essaie de faire face à ce qui se présente.
En tout cas, une femme qu'on envie presque, qu'on a envie de lui.
Je sais pas, vous croyez, mais elle a pas une vie très marrante.
Hein. Ah non, je parle de sa personnalité,
ah,
en
oui,
tout
oui,
cas. Non, parce qu'effectivement, sa vie n'est pas très enviable. Pour s'éloigner un peu du roman, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais je peux pas m'empêcher de vous la reposer. Fin 2012, Actes Sud a eu une très bonne surprise en voyant un de ses auteurs être le prix Goncourt, qui, lui aussi, parlait de saint Augustin. C'est une mode chez Actes Sud.
C'est vrai. Quand j'ai terminé mon roman en juillet, donc juin 2012, donc bien sûr, mon éditeur me suivait depuis 3 ans. J'ai mis à peu près 3 ans à l'écrire, donc mon éditeur savait très bien quel était le sujet. Il avait déjà lu il avait lu au fur et à mesure. Et bien sûr, il m'a rien dit, parce que je pense que peut-être il aurait fait l'hypothèse que peut-être j'aurais été perturbée de savoir qu'allait sortir un roman qui s'intitulait « Le sermon sur la chute de Rome ». Et effectivement, dans mon propre roman, il y a un épisode où Augustin prononce à Carthage, il en a prononcé à Hipporegius, mais il en a prononcé aussi à Carthage, donc ce fameux sermon sur la chute de Rome qu'il a prononcé plusieurs fois. Et donc j'imagine une scène où Elissa se trouve là, dans l'église, au moment de ce sermon, avec justement les deux réfugiés qui ont fui Rome, la fille a été violée par les soudards d'Alaric, la mère a tout perdu, son mari, sa fortune, son palais, etc. Donc c'est des femmes qui sont dans la détresse totalement. Et j'ai essayé d'imaginer des personnes qui ont vécu le saccage terrible qu'a été le saccage de Rome en 410 après Jésus-Christ, et qui entendent ce sermon qui a, de saint Augustin, qui se tient parfaitement. Et c'est-à-dire, il dit, ben oui, mais vous avez perdu votre fortune, mais ce qui est important, c'est de consacrer, c'est pas de se consacrer à l'or. Les femmes ont pu être violées, mais c'est pas si dramatique que ça, du moment, dit-il, que la chair ne s'est pas émue. Je trouve la phrase extraordinaire. Un peu, vous avez été violé, d'accord, mais du moment que vous n'avez pas eu de jouissance, c'est pas grave. Et puis, enfin, tout à l'avenant, c'est ça. Enfin, si, on l'a, ce fameux serment sur la chute de Rome. D'ailleurs, il l'a repris à peu près tel quel dans le début de ce livre de saint Augustin qui s'appelle « La cité de Dieu ». Donc, si ça vous intéresse de voir le contenu, c'est au début de « La cité de Dieu » qu'on a trouvé en livre de poche. Et donc, moi, j'ai essayé d'imaginer des femmes qui ont vécu l'horreur et qui entendent ça, et comment elles peuvent le comprendre. Je veux dire que saint Augustin a parfaitement raison, c'est-à-dire que ce qu'il donne, c'est la distance historique. Il dit que les choses ne sont pas à comprendre dans l'immédiateté de l'horreur, elles sont à comprendre, ben, voilà, sub specie eternitatis, sous le regard de l'éternité, en prenant une distance historique. Et ben oui, tout ce qui tient de l'homme vire à la catastrophe, à l'horreur. Et nous en avons des exemples au quotidien, y compris dans cette région d'Afrique du Nord et d'Afrique. Ça continue, les guerres de religion, et comme on sait, ça fait des massacres et des viols. Et donc, oui, Augustin, il essaie de prendre de la hauteur dans ce fameux sermon sur la chute de Rome. Mais, bon, voilà, moi, j'ai pensé que mon boulot de romancière, c'était de l'imaginer du point de vue des malheureux humains qui sont passés par l'épreuve en question. Mais il a raison, de son point de vue, même si c'est dur à digérer. Et oui, donc, voilà, donc, quand j'ai appris que Jérôme Ferrari publiait un roman qui s'appelait « Le serment sur la chute de Rome », ben oui, mais on s'en a fait qu'un tour. Bon, mais dès que j'ai lu le roman, j'ai compris que c'était pas du tout le même parti pris, même s'il y a cette référence oui, à la pensée de saint Augustin. D'ailleurs, le roman de Jérôme Ferrari est bien un roman jusqu'au bout, puisque, je ne sais pas si vous l'avez lu, le dernier chapitre, il imagine la mort de saint Augustin dans la cathédrale d'Hippone. Hippone étant à ce moment-là cerné par les Vandales. Alors, c'est parfaitement exact historiquement que saint Augustin est mort dans Hippone assiégé par les Vandales, mais il est mort dans sa chambre, dans le bâtiment à côté de l'église, et pas du tout dans la cathédrale. Mais peu importe, je veux dire que ce qui est important, c'est la mise en scène romanesque. Et je trouve que c'est un très, très beau chapitre dans le roman de Jérôme Ferrari.
Dans le passage que vous avez lu tout à l'heure, je me posais également une question, j'ai failli oublier. Qu'est-ce que, à votre avis, comment aurait réagi saint Augustin s'il avait vu Elissa ?
Ben, il l'aurait ignoré.
C'est vrai ?
Ah, c'est vrai ? Bon, ah oui, vous pensez qu'il serait descendu de chair et qu'il serait,
non.
Il serait venu lui faire la bise, par exemple ?
Parce que, bien entendu, le personnage est Elissa et on ne quitte pas les pensées d'Elissa. Est-ce que ça... vous n'avez pas eu envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qu'aurait pu nous dire saint Augustin de tout ce qu'a vécu cette femme, et comment il aurait réagi, alors peut-être pas pendant cette période, mais si au détour d'une rue il aurait croisé son amante.
Non, mais c'est une hypothèse intéressante, mais au fond, on peut la lancer au lecteur. Que fait l'évêque quand il rencontre la vieille maîtresse, comme on dit dans les romans du 19e, une vieille maîtresse. Bon, je pense qu'il l'ignore, ou il ne la reconnaît pas.
D'accord. J'avais une question aussi concernant... votre écriture, puisque c'est un livre qui se lit à voix haute, puisque les mots vraiment coulent, il y a énormément de poésie. Est-ce que comment vous écrivez justement ? Est-ce que vous clamez votre texte ?
Non, je ne le clame pas. Je ne fais pas le gueuloir de Flaubert.
Mais, je pensais à ça, justement.
Mais je lis à haute voix, oui, une fois que j'ai un chapitre ou un passage à peu près en place. Oui, je le teste à l'oreille et je corrige à l'oreille. Mais après, je travaille aussi beaucoup au traitement de texte. Parce que j'écris d'abord à la main plusieurs brouillons. Je teste à l'oreille. Après, je passe au traitement de texte. Et là, je retravaille beaucoup. Et éventuellement, je relis devant l'ordinateur, ce qui est un peu bizarre d'être face là à son écran et de se déclamer son truc. Mais ça m'arrive aussi.
Alors, maintenant, j'imagine que pour le moment... Vous laissez installer un petit peu votre roman et que vous devez avoir un programme chargé. Vous avez des idées pour la suite ?
Peut-être bien des nouvelles, parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas publié de nouvelles. Ça remonte au siècle passé. Oui, peut-être une envie de nouvelles, une nouvelle un peu fantaisiste pour changer. Oui, c'est vrai qu'après Elissa et Saint-Augustin, j'ai un peu besoin de changer de registre. Chose de plus décontractée, tu sais.
D'un peu moins sérieux ?
Peut-être. Je ne sais pas encore bien.
on aura hâte de découvrir ça. Bien, merci beaucoup.
Merci
d'être venu.
Vous.
Et merci d'avoir répondu à toutes ces questions.